L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
L'EM vous emmène pour un atelier enregistré la semaine dernière au collège François Colobert avec les élèves de Pont-de-Buis-Léquimère. Au programme de cette émission, il sera question de la place des écrans dans la vie des jeunes. Aux manettes de l'atelier, on retrouve Jeanne Blanchard en compagnie des jeunes de Pont-de-Buis.
Bonjour et bienvenue sur Radio Évasion pour une émission spéciale sur la thématique « Grandir avec les écrans ». Et oui, les écrans ont envahi nos maisons, nos bureaux et même les rues de nos villes. Ils ont pris des formes diverses, télévision, ordinateur, téléphone portable et autres objets connectés. Et les écrans arrivent de plus en plus tôt dans nos vies. En moyenne, selon l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, les enfants reçoivent leur première console et leur première tablette à l'âge de 7 ans. Mais alors, on peut se poser la question légitime, comment bien grandir avec les écrans ? Les jeunes de l'espace jeune de Pont-de-Buis ont réfléchi à cette question durant ces dernières semaines. Elles sont d'ailleurs présentes avec moi en plateau au sein du collège François Colobert pour y répondre. Bonjour les filles, est-ce que vous allez bien ?
Bonjour, je m'appelle Hyssen, j'ai 11 ans et demi. Et pour moi, les écrans c'est bien, mais ce n'est pas très bon pour nous.
Bonjour, je m'appelle Satya, j'ai 11 ans et j'aurais aimé que les écrans n'existent pas.
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 11 ans. Je trouve que les écrans sont pratiques, mais c'est mieux de ne pas en faire trop souvent.
Ok, déjà beaucoup d'avis sur les écrans. Durant cette émission, on va beaucoup en parler, on va faire un petit retour sur les pratiques des jeunes avec les écrans. Puis on laissera la parole à Madame Kenneth sur le sujet du harcèlement en ligne. Et en fin d'émission, il y aura une chronique de Maxime qui a grandi avec les écrans et qui a compris qu'on pouvait s'y faire un peu d'argent de poche. Mais avant cela, il est important de rappeler que le projet Grandir avec les écrans, ce n'est pas qu'une émission radio, n'est-ce pas Emma ?
En effet, le projet Grandir avec les écrans est mené par les professionnels de la santé et de la fond de la maison de santé de Lône-Maritime. Il y a eu des événements durant tout le mois de mai, comme un forum théâtre, une conférence gesticulée, la réalisation d'une bande dessinée, une rencontre entre parents et bientôt une exposition.
Merci Emma pour ces informations. Au cours du projet Grandir avec les écrans, les enfants des écoles primaires ont aussi dû relever le défi matin sans écran. Avant d'aller à l'école, les enfants n'avaient pas le droit de regarder la télévision ou la tablette. Vous les filles, vous avez relevé un défi encore plus difficile. Est-ce que l'une de vous peut expliquer le défi que je vous ai proposé il y a ça quelques semaines ? Lysen, tu veux bien ?
Oui. Alors, tu nous avais proposé de faire le défi de une semaine sans écran. Donc, on n'avait pas le droit à télé, ordinateur, tablette, sauf pour aller sur Pronote pour regarder, faire nos devoirs et tout. Et envoyer le message le matin pour descendre au collège ensemble ou des choses importantes.
Ouais, c'est ça, on a dû mettre deux exceptions. On a mis l'exception scolaire, parce qu'il faut être sérieux et sérieuse en cours. Et on a mis l'exception aussi du SMS aux parents pour les rassurer. Est-ce qu'on avait la même définition de ce que c'était une semaine sans écran, Satya ?
Non.
Qu'est-ce que c'était pour toi une semaine sans écran ?
Bah pour moi, une semaine sans écran, c'était sans nos portables.
Du coup, ça veut dire qu'il y avait quoi pour toi ?
La télé, les tablettes et l'ordinateur.
Bon, du coup, ça, on a dit non. On a dit faire 6 jours sans. Et lors de notre première rencontre, est-ce que je vous avais demandé combien de temps vous pensiez tenir sans écran ? Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous m'avez dit ?
Oui, une semaine.
Une semaine pour Lysen ?
Une semaine aussi.
Ouais, une semaine pour Satya aussi. Il y en a une autre d'entre vous qui m'avait dit un mois. Bon, on va voir tout de suite si vous avez réussi parce que je vous ai demandé de tenir un carnet de bord. On écoute tout de suite le carnet de bord de Célia, Lysen et Satya.
Carnet de bord, 6 jours sans écran. Jour 1, jeudi 5 mai. J'ai réussi à ne pas regarder les écrans car ma mère m'a enfermée dans le jardin. J'ai dit à ma mère qu'on devait faire une semaine sans écran et elle m'a carrément interdit de regarder les écrans. Donc à chaque fois qu'il regardait la 12 ou la 20, à chaque fois, ma mère me disait d'aller dans ma chambre. Sauf qu'elle ne savait pas que j'avais mon téléphone avec moi. Du coup, elle est montée dans ma chambre, elle a regardé, et après, elle m'a mis dehors, sans rien. Il y avait le trampoline et les balançoires, mais après, je suis partie.
Pour cette première journée de challenge, j'ai réussi à ne pas faire d'écran. Ça m'a fait bizarre de ne pas regarder Demain nous appartient, ma série que je regardais habituellement. Je n'ai pas craqué.
Le matin, j'ai utilisé mon téléphone pour me réveiller. L'après-midi, j'ai pas regardé mon téléphone car j'étais à l'école.
Mais le soir, j'ai pas réussi car j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux, donc j'ai regardé mes notifications sans y répondre.
Jour 2, vendredi 6 mai. Pour cette seconde journée, j'ai réussi à ne pas faire d'écran. J'en ai profité pour réviser, faire mes devoirs et faire des fiches de révision. J'ai aussi regardé Pronote, le site de notre établissement, pour regarder nos notes et nos devoirs, etc.
J'ai réussi car mon téléphone est resté toute la journée dans mon sac et même le soir, je l'avais mis en silencieux.
J'ai regardé la télé car ma sœur l'a regardée aussi. J'ai pas pu m'empêcher parce que c'est dur pour moi de ne pas regarder les écrans, j'ai grandi avec ça. Donc voilà.
Jour 3, samedi 7 mai. J'ai répondu à un appel et j'ai essayé de trouver des astuces pour pas regarder mon téléphone, comme le mettre à plat sous mon lit et aller dehors. Et pour me tester, j'ai mis mon son pour savoir si j'allais résister. Ben, pour savoir si j'étais capable de y répondre ou pas à mes appels, et ben j'ai mis le son et puis j'ai mis mon téléphone sous mon lit. Ben, on entendait quand même et j'ai essayé de pas répondre.
Et du coup, t'as réussi ou t'as pas réussi ?
J'ai réussi.
J'ai fait les magasins avec ma marraine. En rentrant avec ma marraine chez moi, je suis entrée dans le salon. J'ai vu la belle Switch et elle m'attendait que je jouais avec les beaux boutons. Et du coup, bah, voilà, j'ai pas pu m'empêcher.
Cette troisième journée, j'ai réussi même si j'aurais aimé faire de l'écran. Je n'ai pas craqué. J'aurais déjà aimé aller sur Snap, regarder les notifications et aussi regarder des vidéos sur YouTube. Et voilà. Jour 4, dimanche 8 mai. Cette quatrième journée s'est bien passée, même si j'avais envie de faire de l'écran. Et j'avais aussi mon rituel qui me manquait, regarder des vidéos et regarder la télé avec mes parents. Et comme les autres jours, je demandais à ma mère de regarder mes snaps. Bah, je lui demandais de regarder s'il n'y avait pas une notification et de me les lire et lui dire quoi répondre si jamais il y en avait et que je devais répondre.
Et elle t'a dit quoi ?
Elle m'a dit quoi ? Déjà, il y avait des snaps, donc elle m'a lu les snaps. Pareil, elle m'a regardé aussi les stories. Donc, je ne vais pas demander de répondre parce qu'il n'y avait pas de questions, en fait. Donc, voilà.
J'ai joué à la Switch car ma sœur y jouait. Quand ma sœur joue à quelque chose, je veux obligatoirement jouer avec elle.
Je suis allée sur mon téléphone pour mes devoirs. Le soir, j'ai mis une vidéo à ma nièce de 1 an et demi pour regarder Mickey. Jour 5, lundi 9 mai. L'école m'aide beaucoup pour ce jour car j'étais occupée et j'ai pas pu aller sur mon téléphone.
T'es pas allé sur Snapchat un petit peu le soir du lundi ?
Un peu.
Jour 5, lundi 9 mai. J'ai cassé mon téléphone et j'étais avec Emma et on a pris une photo sur Snap. Jour 6, mardi...
Comment tu as cassé ton téléphone ?
Je l'ai tiré par terre sur le sol parce que je croyais qu'il était incassable.
Et du coup, il est incassable ou pas ?
Non. Il y a des morceaux de fer partout. Jour 6, mardi 10 mai, mon téléphone est cassé. Voilà.
Pour ce dernier jour, j'ai réussi. Donc j'ai réussi le challenge. Et mes parents m'ont dit que j'étais beaucoup plus agréable sans écran. Et moi, je me suis trouvée aussi beaucoup plus calme. Et ils ont dit qu'ils savaient maintenant me faire confiance.
C'était le carnet de bord de Lysène, Satya et Célia qui ont relevé le défi 6 jours sans écran. Nous sommes en plateau radio depuis le collège François Colaubert de Pont-de-Buis. Alors Emma est présente aussi avec nous en plateau, elle n'a pas participé à 6 jours sans écran. Mais Satya et Lysène sont avec nous, ils vont faire un petit retour. Alors déjà vous avez toutes les deux réussi à réduire votre consommation d'écran pendant ces 6 jours. Est-ce que vous êtes fiers de vous ?
Oui,
oui.
Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ?
Déjà, moi, ça me donne envie de recommencer parce que moi-même, ça me faisait du bien. Et sans écran, des fois, ça libère une place dans ton cerveau un peu. Parce que t'es occupé à autre chose, t'es pas comme ça à penser toujours à aller regarder sur ton téléphone les notifications.
C'est quoi les activités que t'as pu refaire en arrêtant un peu les écrans ?
Surtout, par exemple, le soir, lire beaucoup. Et pareil, comme dans la journée aussi. et jouer beaucoup plus avec ma sœur.
Satya, c'est quoi ce que t'en retires de cette expérience, toi ?
Bah, j'ai réalisé que je passais beaucoup de temps sur mon téléphone et qu'aller dehors, ça m'a fait du bien.
Lysène, à la fin, on entend que tes parents ont remarqué des changements dans ton comportement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ils ont réagi, vos parents, quand vous leur avez dit « je vais faire 6 jours sans écran ». Lysène ?
Alors, moi, ils ont un peu rigolé parce qu'ils n'y croyaient pas du tout. Mais au bout de 2-3 jours, bah, ils savaient que j'avais réussi. Donc, ils ont commencé à croire que j'allais réussir le challenge.
Satya, comment ils ont réagi, tes parents ?
Ils n'y ont pas trop cru et ils ne pensaient pas que j'y arriverais. Mais j'ai un peu réussi.
Et alors, est-ce que vous leur avez proposé à eux de mener l'expérience avec vous ?
Non.
Non ?
Non.
Est-ce que vous pensez qu'ils y arriveraient, 6 jours sans écran ?
Je ne sais pas trop, mais je ne sais pas.
Je ne pense pas.
Emma, tu penses que tes parents, ils y arriveraient à tenir 6 jours sans écran ?
Non, je ne pense pas non plus.
Et alors, Lysène, toi, tu veux réessayer l'expérience ? Est-ce que Satya, tu voudrais réessayer ? Emma, est-ce que tu voudrais tout simplement essayer ?
Oui. Moi, j'aurais essayé.
Ok. On se rend bien compte avec vos témoignages que c'est difficile quand on a vos âges, quand on est en France. C'est peut-être même impossible de vivre sans écran. On l'a vu, on a fait des exceptions. À l'école, en fait, les écrans, ils sont présents. Et puis, les parents, ils veulent être rassurés par les SMS. Du coup, la question vraiment, c'est comment bien grandir avec les écrans. C'est pas est-ce qu'il faut grandir ou pas avec les écrans. On nous donne pas trop le choix. Mais on n'est pas là pour faire le procès des écrans. Il y a quand même plein de points positifs. On en a beaucoup parlé. N'est-ce pas, Lysène, il y a des points positifs aux écrans?
Oui, on peut envoyer des messages à tout le monde, à même les personnes qui sont loin de nous.
On peut se distraire en jouant à des jeux, en regardant des vidéos, des films.
On peut s'informer et se renseigner.
On peut aussi garder des souvenirs, comme des photos. Mais il y a aussi les points négatifs.
Ce n'est pas bon pour les yeux.
On peut devenir accro.
Ça peut être une source de conflits dans la famille.
On peut mal s'informer, notamment avec les théories du complot.
Il y a aussi le harcèlement en ligne. C'est pour cette raison que nous sommes au sein du collège Colaubert.
Nous avons invité Madame Kenney pour savoir comment elle agit en tant que proviseur d'un collège face à ce problème. Bonjour Madame Kenney, comment allez-vous ? Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, alors bonjour, je suis Marie-Pierre Kennette, la principale du collège François Colaubert. Je suis arrivée sur le collège François Colaubert il y a 2 ans. Et donc, effectivement, je suis de près tout ce qui concerne le climat scolaire dans l'établissement et la question du harcèlement et du cyberharcèlement également et d'actualité hein, sur l'établissement. Non pas que nous ayons des situations à régler quotidiennement, mais nous avons un point de vigilance à avoir sur l'usage des portables par nos élèves, et également nous avons un point de vigilance à avoir sur la vie quotidienne dans la cour de récréation, dans les salles de classe. Pour ce faire, je suis aidée, et je tiens à leur rendre hommage également, je suis aidée par tout le personnel de l'établissement, par la vie scolaire en particulier, qui intervient, qui ne laisse rien au hasard, et qui est toujours à l'écoute des élèves, et qui régule un petit peu les conflits qu'il pourrait y avoir au sein de l'établissement.
Selon vous, est-ce que le harcèlement a évolué ?
Alors, le harcèlement a évolué. Il a toujours existé, je pense. Hein. Ça fait quelques années que je travaille. Je n'ai pas toujours été chef d'établissement. Auparavant, j'étais CPE. Et effectivement, régulièrement, sans parler de harcèlement, nous avions des tensions dans des groupes, au sein de groupes, et des élèves, qu'on appellerait aujourd'hui des élèves cibles, étaient victimes de remarques, de brimades, de moqueries. Et donc, notre rôle à nous, en tant qu'adultes et tous les adultes de l'établissement, nous devons veiller à ce que ces enfants, on doit garantir à ces enfants une scolarité sereine, une scolarité où ils sont heureux et surtout qu'ils ne viennent pas au collège avec la boule au ventre, avec l'angoisse d'être à nouveau importunés par des camarades. Alors, le harcèlement, oui, a évolué, puisqu'aujourd'hui, moi, lorsque j'ai commencé à travailler en tant que conseillère principale d'éducation, nous n'avions pas des portables. Et autant dire que c'était quand même beaucoup plus serein. Nous n'étions pas inquiets de la propagation d'informations. Vous avez parlé des fake news, effectivement, mais également de... Nous avions quand même plus de facilité pour protéger nos enfants, d'autant plus que... Aujourd'hui, on parle de cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, a une... si les dégâts sont, je dirais, identiques au niveau de l'élève cible, au niveau des personnes intimidateurs, ils peuvent se cacher derrière l'anonymat. Donc on a énormément de difficultés pour retracer. Nous avons également la propagation. Hein, lorsqu'on diffuse ce que vous appelez des nudes, hein, donc des selfies dénudées de jeunes filles ou jeunes hommes d'ailleurs, à son insu, sans son consentement, c'est très violent pour la personne, c'est très violent pour le jeune. Et souvent, ce que l'on remarque, alors je ne l'ai pas vécu ici au collège François Colaubert, hein, c'est nos lectures qui font que j'en parle aujourd'hui. Nous avons heureusement au collège quand même beaucoup de... Nous avons un bon climat scolaire. Donc je suis contente d'ailleurs d'être chef d'établissement ici, mais pour ces jeunes effectivement qui ne connaissent pas, qui ne prennent pas garde, qui sont mal informés, qui créent des comptes et qui ne mesurent pas, qui n'ont pas conscience en tous les cas que l'ouverture d'un compte peut aller donner accès à énormément de personnes, accès à leurs comptes. Ces personnes-là deviennent extrêmement vulnérables et ils sont très vulnérables au niveau du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est violent, destructeur. C'est pour un enfant très compliqué à gérer. Alors, moi, si j'ai un message à communiquer à tous les collégiens, hein, et pas seulement les collégiens de François Colaubert, il faut parler. Les premières personnes vers qui il faut parler, ce sont vos parents. Vos parents sont là pour vous protéger. Et également, nous parler à nous, adultes, au sein de l'établissement. Et on mettra des démarches en place de façon à vous protéger et que vous ne souffriez plus de ce type de harcèlement.
Pouvez-vous définir ce qu'est le cyberharcèlement ?
Alors, le cyberharcèlement, finalement, c'est un harcèlement qui utilise les réseaux, qui utilise les messageries, qui utilise Snapchat, qui utilise TikTok, qui utilise les jeux en ligne. Et qui, donc, c'est un groupe, c'est un individu ou un groupe d'individus qui va prendre une cible et qui va diffuser des informations erronées, fausses, dévalorisantes, diffamatoires, diffuser des propos diffamatoires sur un enfant, diffuser pourquoi pas des nudes aussi. Et l'enfant va être rejeté d'un groupe, va devoir subir une forme donc de violence. On n'est plus dans la violence physique là, mais on est dans une violence. On a un état mental. On est détruit lorsqu'on subit ce type de cyberharcèlement. Et la diffusion est vraiment instantanée. C'est ce caractère-là, c'est-à-dire que dans la minute qui suit. Sur la toile, donc dans les réseaux, vous êtes complètement... on vous détruit finalement. Votre image est détruite. Et ensuite, il faut reconstruire l'enfant. Parce que lorsqu'on est victime de ce type d'agissement, l'estime de soi, on prend vraiment un coup. Et ensuite, là, il faut qu'on vous porte à bout de bras pour que vous repreniez confiance.
Est-ce que dans les différents établissements où vous avez travaillé, vous avez eu des situations de harcèlement en ligne ?
Alors non. Non. Jusqu'à présent, je n'avais pas eu de problème de harcèlement en ligne. À l'époque, lorsque j'étais CPE sur Marseille, le portable était interdit dans l'enceinte de l'établissement. Et le chef d'établissement avec qui je travaillais disait aux parents, parce qu'on pouvait encore l'entendre à cette époque-là, ne donnez pas de portable à votre enfant, parce que c'est l'objet de convoitise. Et donc, vous le mettez en danger en lui donnant un portable. Et je dirais qu'il avait raison, ce monsieur. Voilà, mais... L'évolution a fait qu'aujourd'hui, on a vraiment banalisé le portable et l'usage du portable. Et donc, on vous rend vulnérable à présent sur des formes de cyberharcèlement. Mais moi, j'ai toujours été protégée dans mes établissements précédents. Alors, peut-être que je suis naïve et peut-être que je ne l'ai pas su non plus. Hein, il y a aussi ce caractère-là. Moi, je reste très humble hein, sur l'action qu'on peut mener, nous, en tant qu'adultes. J'espère, en tous les cas, que je ne suis pas passer à côté d'un jeune qui aurait été en souffrance à cause de cyberharcèlement et que nous ne l'ayons pas su, que nous n'ayons pas pu l'aider surtout.
Il y a eu une situation de harcèlement en ligne l'année dernière ici à Colaubert par contre ?
Oui, voilà, c'était donc mon premier cas d'étude, je dirais. Premier cas d'étude, alors je ne me rappelle plus quelle période, mais de souvenir c'était au cours des mois d'hiver. Hein. J'ai souvenir d'une journée assez grise. Et donc j'ai été alertée sur cette situation par un élève de 6e qui était en réseau avec la victime et qui est venu nous alerter sur des propos malveillants qui étaient propagés sur le groupe Snapchat que la classe avait créé. Le jeune homme en question jouait en ligne. C'était fait un ami avec un ami donc, qu'on ne connaît pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est totalement anonyme hein, quand lorsqu'on joue en réseau. On a des pseudos. Et donc ce jeune homme s'est fait un ami. Il s'est plaint en fait de sa vie en général, hein, pas forcément que de sa vie au collège. Mais c'est vrai que c'était un élève qui était un petit peu en difficulté aussi au collège. Donc il n'était pas forcément très heureux. Et le jeune homme en question, enfin l'individu en tous les cas avec qui il échangeait, a pu prendre la main sur ses comptes. Donc il a pris la main sur ses comptes et a commencé à inonder dans le réseau de la classe, inonder donc le réseau par des messages injurieux, vulgaires, voire pornographique, avec des connotations pornographiques. Et donc, nos élèves de 6e ont été particulièrement choqués par ce qu'ils lisaient et par les menaces, puisqu'il y avait également une menace de descente sur l'établissement.
Qu'avez-vous ressenti face à ces situations ?
Alors, ce que je ressens à ce moment-là, c'est je me sens seule. je prends très au sérieux. Tout à la fois, je prends du recul en me disant... Ils annoncent qu'ils vont descendre sur le collège, mais je n'y crois qu'à moitié. Mais je ne peux pas prendre le risque de n'y croire qu'à moitié. Il y a une moitié à laquelle je crois. Et donc, il faut que j'assure la sécurité de tous les élèves. Donc, il y a une classe de 6e qui est en stress. Il y a un élève victime. Ça faisait une semaine qu'il ne vivait plus parce qu'il savait que les jeunes avaient pris donc la main sur son portable et il n'osait pas en parler. Donc lui était victime et à la fois il était à l'origine de tout ce qui se passait au sein du réseau de la classe. Et puis il y avait un chef d'établissement qui devait agir. Donc nous avons la chance en tous les cas dans l'éducation nationale d'avoir des personnes ressources au-dessus de moi que je peux contacter à tout moment pour qu'ils me guident et qu'ils m'accompagnent dans les mesures à prendre.
Quelles actions avez-vous mis en place ?
Alors, sur cet événement-là, il fallait agir rapidement, puisque la menace était, on va dire, réelle, hein, quand même. Donc, j'ai contacté l'équipe mobile de sécurité qui existe sur le rectorat et qui est intervenue immédiatement, en tous les cas, par téléphone. Et nous avons averti la gendarmerie pour que des rondes soient faites. Et sinon, j'ai également contacté la BPDJ, donc la Maison de la Confiance et de Protection de Famille. Et donc, nous avons pu avoir l'intervention rapide, alors pas dans la journée, mais la semaine suivante, d'un gendarme qui est venu pour parler auprès de toutes nos classes de 6e sur les réseaux sociaux. Hein. Effectivement, dans votre présentation, il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. Hein. Donc, sa présentation montrait effectivement les deux aspects de l'utilisation de façon raisonnée des réseaux et des téléphones.
Avez-vous vu des changements depuis l'intervention du gendarme ?
Alors, depuis l'intervention du gendarme, je n'ai pas eu d'autres événements, mais je n'exclus pas que je ne sois pas au courant de tout non plus. Hein. Il se peut que d'autres élèves aient subi des formes de cyberharcèlement et que je n'ai pas eu l'information. Des changements, non, parce que ça a été assez brutal. Hein, l'événement, il a été ponctuel et brutal. Donc, des changements, non, j'en ai pas vu énormément.
Pensez-vous que cette situation de harcèlement en ligne peut se reproduire ?
Oui. Elle peut se reproduire parce que elle touche à la fois des élèves, elle peut toucher des adultes. On est tous vulnérables face au réseau dès lors qu'on n'est pas prudent lorsqu'on crée un compte. Pour revenir à cette situation, le jeune homme donc s'était fait hacker donc tous ses comptes et surtout il avait été géolocalisé. D'où l'importance vous pouvez créer des comptes, mais il faut savoir à qui vous ouvrez vos droits et comment vous les gérez.
Que faites-vous au sein du collège pour éviter que cela se reproduise ?
Alors, au sein du collège, on a un comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement qui fonctionne. Et on a surtout mis en place cette année, grâce au rectorat et à la direction académique, une formation phare qui est un plan de prévention du harcèlement à destination des établissements scolaires. Et donc on a une équipe de 5 adultes qui ont suivi cette année une formation. Donc les 5 adultes, c'est 2 membres de l'équipe de vie scolaire, 2 enseignantes et une assistante sociale. Et donc cette formation a permis de mettre en pratique ce que nous appelons la méthode de la parole partagée. Et donc c'est un dispositif qui permet, dès lors qu'on a connaissance d'une situation, on est sur de la prévention, on n'est pas sur du harcèlement, parce que le harcèlement passerait directement au bureau du chef d'établissement, mais on est sur de la prévention de harcèlement. Dès qu'on a connaissance qu'un élève est en difficulté, en souffrance, parce que il reçoit des remarques ou il est un peu moqué, on met en place un temps d'échange. Une personne prend en charge l'élève cible, l'écoute, met à plat ce qu'il subit. Et d'autres personnes vont accueillir les élèves intimidateurs. Pas tous ensemble. Et ce sont des petits échanges de 2 minutes au cours duquel les personnes vont être amenées à prendre conscience par eux-mêmes. Hein. On leur dit pourquoi ils sont là, mais on les accompagne pour qu'ils prennent conscience que leur camarade n'est pas bien. Et c'est eux qui vont, après réflexion, alors pas immédiatement, et pas forcément au bout de 2 minutes, mais au bout d'un autre entretien, c'est eux qui vont être force de proposition pour aider le camarade. Et comme ça, on essaye, alors ça fonctionne, hein, mais ça ne fonctionne pas toujours, on essaye en tous les cas de ne pas arriver à des formes violentes de harcèlement, ou à des formes toutes courtes hein, de harcèlement, on essaye de responsabiliser tous les enfants. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci Madame Kenneth, merci les filles pour cette interview. On le rappelle du coup, le plus important c'est de prendre la parole quand on fait face à ce genre de situation. Même quand on n'en a pas conscience, il y a toujours des personnes bienveillantes qui nous entourent et qui peuvent nous aider.
L'EM, l'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Tout de suite, une pause musicale avec le choix de nos programmateurs, Crazy Frog. Une chanson avec laquelle Zachary et David ont grandi, mais surtout une chanson ancrée dans la culture des écrans et d'Internet. L'histoire de cette musique commence en 1997 avec un adolescent suédois qui a enregistré une imitation d'une moto sur son téléphone, juste pour rire comme ça entre potes. Pour quelle raison, on ne sait pas très bien, mais l'imitation fait le tour d'Internet à l'époque des boîtes mail et autres MSN. Au début des années 2000, les téléphones portables sont de plus en plus courants et surtout, c'est la mode des sonneries personnalisées. Alors pour les plus jeunes, je pense les filles, vous connaissez pas, mais à l'époque, il suffisait d'envoyer un SMS payant pour avoir comme sonnerie la chanson du moment ou n'importe quelle drôle de voix ou drôle de personnage qui te priait, voire te criait, de décrocher. Et c'est ce qui arrivait à Crazy Frog, cette imitation de moto par un jeune suédois qui a tourné sur Internet, devient une sonnerie de téléphone et est téléchargée par millions. Vraiment, par millions.
Crazy Frog. Cette espèce de grenouille bleue devient alors une poule aux œufs d'or. En 2005, deux Allemands en font une musique qui explose et devient mondialement connue. Tout de suite, c'est Axel F de Crazy Frog. What's going on? C'était Crazy Frog, une musique 100% numérique pour une émission 100% digitale, ou presque. Aujourd'hui, on s'intéresse à la place des écrans dans nos vies et notre quotidien. Et on peut se le dire, nos pratiques ont totalement changé avec les écrans et Internet. Notre manière de consommer de la musique, par exemple. Aujourd'hui, on écoute principalement du son sur des sites de streaming comme Spotify, Deezer ou SoundCloud. Mais Internet a aussi changé notre manière de consommer et notamment d'acheter et de vendre. C'est ce qu'a constaté Maxime, un jeune lycéen du lycée des métiers de Pont-de-Buis.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Maxime. J'ai 18 ans et je fais du business sur les réseaux sociaux. Je récupère, répare et revends les téléphones mobiles pour pas trop cher. J'ai commencé à réparer les téléphones il y a 3 ans, quand j'avais cassé mon iPhone 6. Et malheureusement, j'avais pas l'argent pour en racheter un. Je me suis rendu compte que je pouvais faire énormément d'argent en réparant le téléphone de mes amis. Je ne me fais pas beaucoup de chiffre d'affaires et je refais les téléphones pour le plaisir et je les revends en général à des amis pour pas trop cher. Il y a plein de manières de gagner sa vie en vendant des articles sur Internet, comme des chaussures. J'ai un ami qui achète et revend les chaussures de collection. Est-ce que vous connaissez la marque de chaussures NMD? Moi je ne la connais pas, mais mon ami la connaît bien. C'est avec cette paire de chaussures qu'il a commencé. À l'époque, il les avait achetées 210 euros. En attendant un peu, les chaussures ont pris de la valeur, pour les revendre au final aux alentours de 15 000 euros. Et grâce à cet argent, il a réussi à acheter sa première voiture. Et vous, est-ce que vous vendez sur Internet? C'est le cas de plus en plus de Français, notamment depuis le confinement. 77 euros par mois, c'est en moyenne ce que gagnent les Européens qui vendent sur Internet. On peut vraiment tout vendre sur Internet. Enfin, quand même pas sa belle-mère.
Merci Maxime. C'est la fin de notre émission Grandir avec les écrans. Bien sûr, il reste encore plein de choses à dire sur le sujet, mais ça sera une prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir participé à l'émission. Merci Lysène, Satya et Emma. Merci Madame Kenney d'être venue et merci au Collège François Colobert de nous avoir accueillis. Merci Zachary Chiban et David Blanchet pour la technique et à la prochaine sur Radio Évasion.